En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ah, donc on commence par mettre le corps en méditation, comme d'habitude, avec une colonne vertébrale bien droite. Le regard à l'oblique, très détendu, le reste du corps très détendu. Et puis on peut prendre un moment pour se laisser pénétrer par le sens de cette prière de refuge. Le refuge dans le Bouddha, on pourrait reformuler par « J'aspire à l'éveil comme seul refuge contre la souffrance ». C'est pas le Bouddha qui nous protège, c'est notre aspiration à l'éveil. C'est ça le sens du refuge dans le Bouddha. L'éveil comme seul refuge contre la souffrance. On cherche tous à être heureux. Aussi loin qu'on se souvienne, on a toujours cherché le bonheur, toujours cherché à se préserver de la souffrance. On a essayé avec tout. On a essayé avec la gloire, l'argent, l'amour au sens mondain du terme. Mais même si on a pu en tirer beaucoup de satisfaction, de petits bonheurs, de compensation, force est de constater que aujourd'hui on ressent toujours dukkha. On est toujours confronté à la contrariété. Et c'est une invitation pour à voir que le monde ne peut pas nous apporter un refuge ultime, ne peut pas nous apporter le bonheur ultime auquel on aspire. Prendre refuge en le Bouddha, c'est-à-dire aspirer à l'éveil, c'est aspirer à être plus lucide. On veut y voir plus clair, on veut voir les choses plus directement, plus objectivement, de façon à dissiper tout malentendu sur ce que nous sommes, sur ce que sont les choses. Le malentendu, c'est ce qu'on appelle le samsara. Ça décrit l'état confus de notre esprit, qui, plutôt que de voir directement les choses telles qu'elles sont, on les interprète selon nos conditionnements. Et ce malentendu qu'on appelle l'ignorance dans le bouddhisme, c'est la racine de tous nos problèmes. C'est pour ça qu'on prend refuge dans le dharma. Le dharma, c'est tout ce qui va nous permettre de dissiper nos malentendus, nos conditionnements, nos idées fausses. Donc le dharma, ça, c'est pas seulement toutes les méthodes qu'a enseigné le Bouddha. On peut trouver le dharma dans la vie de tous les jours. Tout ce qui nous permet de déceler en nous l'illusion, la confusion. Une déception, une contrariété, ça peut être aussi un dharma. Dès lors que ça nous interpelle, et ça nous permet de de voir là où on s'est raconté des histoires, là où on a cherché le bonheur dans la mauvaise direction. Quand on a une déception, ça peut nous renvoyer à nos attentes. Et enfin, le refuge dans la Sangha, c'est pour faire cette démarche d'éveil, on va avoir besoin de se rapprocher de personnes qui sont dans la même démarche que nous. Sangha, c'est un terme qui désigne celui qui aspire à la vertu. Donc c'est pas seulement la communauté des bouddhistes, c'est toute personne dans notre entourage qui nous inspire et nous encourage à aller jusqu'au bout de notre projet de nous éveiller. Une relation difficile peut aussi être considérée comme la sangha, dans la mesure où ça nous invite à aller plus loin, à déceler en nous les choses à travailler. Même si cette relation n'est pas facile, elle peut être considérée comme précieuse, et donc considérée comme la sangha. Et à contrario, il peut y avoir des relations qui sont très séduisantes a priori, mais qui finalement, dans ce genre de relation, on n'arrive pas à se libérer de nos conditionnements. Et à ce moment-là, on se doit de se préserver en mettant de la distance, ou alors en s'autorisant à ne pas se laisser influencer. Et enfin, on accompagne cette prière de refuge de la motivation d'atteindre l'éveil pour être une cause de bonheur pour tous les êtres, une cause de libération pour tous les êtres. Ce qu'on appelle la bodhicitta. C'est ça qui doit être notre moteur pour réaliser notre projet de réaliser l'éveil. Et ensuite, tranquillement, on s'installe, on place l'esprit en méditation, c'est-à-dire avec beaucoup de détente. On laisse notre champ de conscience s'élargir. À tout ce qui compose cet instant présent. On ne se refuse pas à être conscient, on intègre tout. Les sons, les sensations, les perceptions, les pensées. L'humeur de ce soir. Et on s'autorise à rester détendu, très relax par rapport à tout ce qui traverse l'esprit. Quelqu'un qui a une journée bien remplie, qui peut enfin rentrer chez lui et laisser tomber toutes ses préoccupations, s'asseoir dans son fauteuil, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on a accompli tout ce qu'il y avait à accomplir, on s'autorise à se détendre complètement tout en restant alerte. Très naturel, on ne crée pas un état d'esprit particulier, un état d'esprit méditatif, on ne fabrique rien, on est juste présent. présent à ce qui se passe. On n'essaye pas de calmer quoi que ce soit. On n'essaye pas de ne pas être dérangé. On est simplement conscient du mouvement ou de l'absence de mouvement. S'il y a des sons, on est simplement conscient qu'il y a des sons. Le problème, c'est pas d'avoir des pensées. Le problème, c'est de se laisser emporter, embarquer par les pensées, au point d'en oublier tout le reste. C'est ça qu'on appelle la distraction. Au bout d'un moment, on peut se rendre compte qu'on est parti ailleurs, on n'était plus là, on était parti autre part, dans une pensée relative au passé ou au futur, au point d'en avoir oublié tout le reste, c'est ça qu'on appelle la distraction. Si on se rend compte de ça, c'est que la vigilance est revenue. Donc il n'y a rien à faire de particulier. Il n'y a pas sans vouloir d'avoir été distrait. Il n'y a pas à essayer de ne plus être distrait, il y a juste à en rester là. Si on prend conscience qu'on a été distrait, c'est que la vigilance est revenue, il n'y a plus rien à faire. Aucun effort. On s'autorise à ne pas revenir sur la pensée, la préoccupation, et à ne pas non plus s'en vouloir d'avoir été distrait parce que c'est encore de la distraction. Dès qu'on s'aperçoit qu'on a été distrait, c'est qu'on l'est plus. Parfois, ça peut nous arriver d'écouter quelqu'un en train de parler, et puis on pense à autre chose parce qu'on est préoccupé par autre chose, et puis on décroche. Et donc, pardon, qu'est-ce que tu as dit? Ça, c'est la distraction. Et en fait, comme notre esprit s'est focalisé sur quelque chose, bah du coup, il a été comme piraté, quoi. Et donc, du coup, on n'est pas à même d'avoir compris ce que la personne a dit, d'avoir entendu, etc. Ça, c'est la distraction. Mais du coup, ce qui nous arrive souvent, c'est qu'une fois qu'on s'en rend compte à ce moment-là, c'est quelque part, on n'est plus distrait à ce moment-là. On se rend compte qu'on était parti ailleurs et puis on est de retour. Mais ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est justement de se dire, bon, bah, puisqu'il faut absolument que je me concentre sur ce que dit la personne, sur ce que dit la personne. Et là, du coup, on rajoute une tension par-dessus. Et bah, vous pouvez constater, quand on fait ça, que du coup, on n'est pas encore à l'écoute. Parce que du coup, on est trop en train de vérifier qu'on est attentif à ce que dit la personne. On est dans une auto-vérification constante qui fait que bah, à ce moment-là, on est encore distrait. Et quelque part, il faudrait se faire confiance, en fait. L'attention, ça vient dans la détente. C'est-à-dire, dès lors qu'on se rend compte que bah, voilà, on n'entend plus la personne, il faut arriver à se détendre et se faire confiance. Voilà, je reviens, etc. Mais si on se dit, non, il faut absolument que j'écoute ce qu'elle me... On va avoir du mal, en fait, à être réceptif. En méditation, c'est pareil. Si on voit qu'on a été distrait... Bah, on va avoir tendance à se dire « Ah mince, j'ai été distrait encore, etc. Il ne faut pas que je sois distrait, etc. Bah, » on est reparti, quoi. On est reparti dans... Non, il faut s'autoriser à se détendre à ce moment-là, se faire confiance. Donc Donc, bonsoir. Bonsoir. Ce mois-ci, on va voir la paramita de la persévérance. Qu'on traduit aussi par la paramita de la diligence. Diligence, persévérance. Donc je vous lis la strophe.
Qu'est-ce que ça veut dire diligence?
C'est au Far West.
Pose-toi, Sonny. Pose-toi. Je vous rappelle, dans les enseignements, moi vraiment je suis ouvert à ce qu'on intervienne. Mais si traditionnellement, par exemple, voilà, la Massu dit qu'il ne faut pas intervenir pendant les enseignements, la tradition, c'est l'idée qu'on ne doit pas poser des questions sur l'impulsion, sur le tout de suite. C'est parce que nous, en tant qu'auditeurs, on doit aussi être en pratique, c'est-à-dire on est à l'écoute, et ensuite il y a un temps de réflexion, et ensuite, traditionnellement, il y a un temps de questions-réponses. Moi, je suis très ouvert à ça. À laisser parler, tu vois là, t'es pas...
Je suis d'accord, mais si je sais pas de quoi on parle, c'est ça le problème.
Bah attends, t'arrives, tu t'assois à peine, truc, j'ai prononcé le mot diligence, tout de suite, quelque chose. Là, on est dans l'impulsivité. D'ailleurs, en tant que pratiquant, voilà, la patience. On est à l'écoute d'abord, ensuite, bien sûr, en plus, moi je suis ouvert à toute question, je vous le répète, que vous pouvez intervenir, mais par contre, vous avez votre rôle à jouer, c'est-à-dire, on est en... En pratique aussi, à l'écoute de ce qui se passe dans l'esprit. Je vais pas me barrer en courant. Donc la diligence, ça veut dire la c'est traduit par la persévérance. La persévérance, donc le terme tibétain, c'est tsundru. Et dans ce terme, en fait, il y a une connotation qui n'apparaît pas forcément en français dans le terme persévérance, c'est l'idée de enthousiasme. Tsundru, ça veut dire enthousiasme pour le bien. L'effort joyeux. En plus de l'idée de persévérer, voilà, d'être, on va dire, compétitif avec soi-même, on dirait même combatif, il y a beaucoup de termes guerriers hein, dans la persévérance, vous allez le voir. Mais l'idée, c'est qu'on y trouve un intérêt, une réjouissance, dans cette idée de persévérer. Donc je vous lis la strophe. Quand nous voyons comment les Shravakas et les Pratika Bouddha, dont le but est leur propre bien-être, se donnent du mal avec le zèle de celui qui essaie d'éteindre le feu sur sa tête, persister dans la diligence qui est la source de toutes les qualités pour le bien de tous les êtres et la pratique d'un bodhisattva. Alors je vous la relis. Quand nous voyons comment les Shravakas et les Pratika Bouddha, dont le but est leur propre bien-être, se donnent du mal avec le zèle de celui qui essaie d'éteindre le feu sur sa tête, persister dans la diligence qui est la source de toutes les qualités pour le bien de tous les êtres et la pratique d'un bodhisattva. Ça fait pas mal de termes costauds, mais voilà, ça peut peut-être être l'occasion de replacer les choses dans leur contexte. Donc dans le bouddhisme, on va discerner deux courants principaux. Le courant du Hinayana et le courant du Mahayana. Le courant du Hinayana, c'est traduit par le petit véhicule, même si on n'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il y a une connotation péjorative. Mais en fait, derrière l'idée de petit véhicule, en fait, ça veut dire véhicule restreint. Restreint à quoi ? À sa propre libération. Tout simplement. Le but de l'école des Shravakas, des pratiques à Bouddha, c'est de se libérer soi-même de la souffrance. Donc c'est comme ça qu'ils suivent le Bouddha. En tant qu'auditeur, Shravaka ça veut dire auditeur, celui qui écoute le Bouddha et puis qui répète en fait et qui met en pratique ses enseignements et la finalité c'est de se libérer de la souffrance. Donc on aura le fruit de nos aspirations. Si mon aspiration c'est de me libérer de la souffrance, le fruit ça sera l'état d'arhat. C'est ça la finalité des pratiques à Bouddha et des Shravaka, c'est l'état d'arhat. L'état d'arhat ça veut dire celui qui a vaincu l'ennemi. C'est-à-dire les poisons de l'esprit. Et donc, c'est libérer de la souffrance. Alors que... Donc, en fait, il faut comprendre que les Shravakas considèrent le Bouddha comme quelqu'un d'un peu à part, d'un peu exceptionnel. Donc on n'aspire pas, en fait c'est pas qu'ils sont égoïstes, qui ne se consacrent qu'à eux-mêmes par égoïsme, c'est simplement qu'ils n'envisagent pas qu'ils pourraient réaliser ce que le Bouddha a réalisé, tout simplement. C'est pour ce véhicule-là, le Bouddha est quelqu'un de particulier, dans le sens où il a des capacités, mais voilà, seul le Bouddha, alors que du point de vue des Bodhisattvas, donc la voie auquel on s'inscrit, le Mahayana, le grand véhicule, c'est on parle de grand véhicule parce que dans ce véhicule, on va inclure tous les êtres avec nous. D'ailleurs, on considère que ce que le Bouddha a réalisé, on peut tous le réaliser. Donc, on peut réaliser à la fois la libération de la souffrance individuelle, mais en plus acquérir les capacités d'un Bouddha, c'est-à-dire les capacités de rayonner, voilà, les qualités d'un Bouddha, de manière non intentionnelle sur tous les êtres. Et donc, du coup, ça va avoir un impact qui sera une cause de libération pour tous les êtres. Voilà, et donc c'est pour ça que dans la strophe, ils disent, alors que bah, voilà, les Shravaka, les Pratyeka Buddha aspirent simplement à la libération individuelle, bah, de constater l'énergie qu'ils déploient pour cet objectif-là, en gros, nous qui avons une mission encore plus vaste, c'est pas le moment de mollir, quoi. C'est un peu cette idée-là. Et donc, voilà, c'est tout le propos des paramitas. Voilà, on en a déjà parlé. Les paramitas, ça veut dire vertu transcendante. Vertu à quoi? Vertu à l'éveil, c'est-à-dire vertu qui a le pouvoir de nous éveiller. Et transcendante, c'est-à-dire qui va nous permettre d'aller au-delà du samsara, au-delà du nirvana. Au-delà du samsara, on pourrait dire que c'est au-delà de la confusion de notre esprit, nous permettre de nous libérer de la souffrance. Et au-delà du nirvana, c'est-à-dire que la paix du nirvana n'est pas envisagée comme une demeure définitive. On va dire que c'est un stade. Pour les bodhisattvas, l'arhat, c'est juste un palier. Mais on ne va pas s'arrêter à l'état d'arhat, on va continuer le chemin. Donc on va parler des 10 terres de Bodhisattva, c'est toutes ces étapes dans lesquelles à chaque terre on va obtenir de plus en plus de capacités pour aider les êtres, jusqu'à la finalité, l'état de Bouddha. Du point de vue du Bodhisattva, on ne cherche pas à se libérer du cycle des existences. C'est pas le propos. Du point de vue du Bodhisattva, au contraire, on cherche à maîtriser la renaissance. On fait le souhait, en fait, de renaître dans le samsara tant qu'il y aura des êtres à aider. Donc il n'y a même pas l'idée de voilà d'un état de Bouddha, une sorte de. On ne cherche pas à devenir un être éveillé, on cherche à manifester l'éveil. Et donc, tant qu'il y a des êtres à libérer, peu importe en fait si on doit renaître encore et encore, mais par contre, on va dire, on va maîtriser la renaissance. Alors voilà, le concept de renaissance, l'idée de renaissance, c'est quelque chose qui est beaucoup développé dans le bouddhisme et qui est souvent mal compris. Mais si on nous demande d'adhérer voilà, à cette croyance, voilà, adhérer à cette idée de vie future, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on a développé ça, c'est pas adhérer comme ça à une croyance, ça a été développé à partir de l'observation de notre esprit. Cette idée de renaissance, de mort et de renaissance, en fait, elle a lieu à chaque instant de conscience. Et c'est ça le propos, c'est de comprendre ça, de voir ça dans notre expérience. De quoi on parle quand on parle de renaissance? Évidemment, après, on extrapole les vies futures, etc. Mais à quoi s'applique la renaissance dans notre vie de tous les jours? Et cette idée de renaissance, en fait, elle s'appuie sur cette notion de vacuité. Le non-soi de l'individu, le non-soi des phénomènes. Voilà, ça veut dire que ce que le bouddhisme réfute, c'est pas le fait que on est des êtres, on est des personnes. Ce qui réfute, c'est l'idée d'une identité, la croyance en l'ego. L'ego, la croyance en une identité, c'est-à-dire une entité qui serait identique à chaque instant et auquel on se raccroche, auquel on veut croire. On veut systématiquement à chaque instant vouloir se définir. Alors que notre nature est justement être indéfinissable, elle est infinie. Parce qu'elle n'est pas quelque chose, l'esprit n'est pas quelque chose. C'est ça cette idée de vacuité. Mais vacuité, ça ne veut pas dire, voilà, je n'existe pas. C'est je n'existe pas tel que je le conçois, c'est-à-dire en tant qu'entité, en tant que quelque chose de définitif. Et ce qu'on remet en question, c'est je me prends pour qui ? C'est ça qu'on essaye de voir dans notre... C'est qu'à chaque instant de conscience, on va endosser des identités et on va vouloir s'y raccrocher. À la limite, l'identité, c'est pas ça le problème, c'est le vouloir se définir par rapport à ça, vouloir s'y agripper. On peut très bien comprendre que bah voilà, quand si on est médecin, on est en face de son patient, et bah on est dans le rôle du médecin. Mais quelque part, cette casquette, on est capable de la mettre de côté si on est avec nos enfants. À ce moment-là, on est dans le rôle de père de famille. Voilà. Mais ça, c'est pas pour ça qu'on va chercher à s'identifier à ça. On est capable de répondre à une situation de manière appropriée. Voilà. En fonction de la situation. La croyance en l'ego, c'est ça. C'est de vouloir, justement, se définir par rapport à des repères constamment. Je suis qui ? Je suis quoi ? Je suis monsieur ou madame Attel, médecin, généraliste ou voilà, père de famille, etc. Et vouloir emporter toutes ces définitions dans notre vie de tous les jours. Mais au bout d'un moment, en fait, ça va nous encombrer. Et cette idée de renaissance, en fait, c'est qu'à chaque instant de conscience, on renaît. Mais on a le choix entre renaître selon nos conditionnements, c'est-à-dire s'agripper à une identité fabriquée, superflue, etc. Ou alors, bah, puisque je ne suis pas quelque chose, à ce moment-là, je peux être qui je veux. Je peux renaître qui je veux. Et toute cette idée de renaissance, en fait, est utilisée dans ce qu'on appelle les méditations sur les divinités, qu'on voit dans le Vajrayana, où justement, on essaye de purifier. Au lieu de se prendre pour monsieur ou madame Attel, et bah, on se prend pour amour, compassion. Toutes les qualités de l'esprit qui, du coup, sont conformes à la nature de l'esprit. On arrête de s'identifier à quelque chose pour s'identifier au rayonnement de l'esprit, les qualités. Et du point de vue du Bodhisattva, voilà, on ne cherche pas à se tirer du samsara, on cherche à maîtriser la renaissance. Plutôt que se prendre pour monsieur ou madame Attel, on se libère de ça, puisque je ne suis pas quelque chose, alors je peux être qui je veux. Et donc je peux être toutes les qualités d'un Bouddha. Je peux être Bouddha. On est, voilà, on a cette nature de Bouddha, donc à ce moment-là, pourquoi ne pas s'identifier à ça ? Donc je suis amour. Donc je suis qualité illimitée de l'esprit. Voilà, c'est ça cette idée de renaissance qu'il faut, bah, qui est beaucoup plus intéressante à appréhender. Et c'est un, par exemple, il y a une expérience qu'on nous invite à faire quand on se réveille le matin, avant même, voilà, si on est suffisamment alerte, de voir qu'au moment où on ouvre les yeux, il n'y a encore rien. Il y a juste la conscience nue, et puis très rapidement, ok, où je suis ? Et puis ensuite, qui je suis ? Tac, 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 les repères qui se mettent en place, mais de prendre conscience de cette fabrication, qui vient par-dessus une conscience nue, qui n'a pas besoin, elle, de repères, qui n'a pas besoin de toutes ces... Bien sûr, hein, le mental a son utilité, on va en avoir besoin. Mais comprendre que la compétence du mental, c'est la compétence du mental, mais que ce que nous sommes, la conscience, est au-delà de ça. C'est-à-dire, elle ne s'embarrasse pas de définition. Et voilà, là, il y a un moment de... Quand on parle de la naissance, bah, c'est ça. C'est comment je renais. Est-ce que je m'agrippe à des repères ou est-ce que je vois cette fabrication se mettre en place ? Et donc, du coup, bah, je peux en être libre. Pas forcément obligé de m'identifier. Bah, ça, c'est vraiment une expérience de méditation, du coup. Alors pourquoi je parle de ça ? Ah oui, les paramitas, voilà, les paramitas. Voilà, au-delà du samsara, au-delà du nirvana. Donc au-delà de cette idée de, voilà, envisager l'éveil comme une sorte de stade, un palier. Les qualités étant illimitées, un bodhisattva trouvera toujours le moyen d'aller plus loin. L'amour n'a pas de limite. L'amour ne peut pas s'épuiser. Les compétences pour aider les êtres, il n'y a pas un moment où on pourra dire « ça y est, c'est fini, j'en ai assez. Il y aura toujours un moyen plus habile. C'est ça la démarche du bodhisattva. On est toujours dans l'apprentissage de trouver un moyen encore plus puissant, encore plus habile pour aider les êtres selon leurs capacités, leurs moyens, etc. On ne s'arrête jamais dans la démarche du bodhisattva. Et on finit par manifester l'éveil. Mais à la limite, l'idée d'être éveillé, on n'en sait rien et on s'en fiche. L'idée, c'est voilà. Vous demandez au Dalai Lama, êtes-vous un être éveillé ? Non, je suis un simple moine. Vous demandez à Rinpoche, il vous dira non, je suis un étudiant. Ah, y a toujours cette idée-là. Il n'y a jamais un point où ça y est, c'est le stade, c'est bon. Non, il y a toujours plus à faire. Voilà, alors ensuite on va parler de la persévérance, après cette longue parenthèse. Donc, la persévérance, donc c'est la base pour faire naître la persévérance, on nous dit, c'est ce qu'on appelle l'aspiration. Et avant de parler de cette paramita, on nous dit qu'il faut le facteur aspiration. L'aspiration, c'est considéré comme un facteur mental. L'aspiration, c'est ce qu'on développe par exemple dans la prière de refuge. J'aspire à libérer tous les êtres de la souffrance. J'aspire à m'éveiller. Ça vient du désir. Le désir est constamment là. Donc, dans le désir, à la limite, c'est ni bien ni mal. Ça dépend en fait comment on l'emploie. Dans le désir, et ben, du coup, on peut le sublimer et transformer ce désir à désir de s'éveiller, désir d'accomplir le bien des êtres. Et ça donne l'aspiration. Et l'aspiration, alors quand on nous parle de développer l'aspiration, c'est quelque chose qu'il faut renouveler constamment dans la journée, parce que sinon elle se dissout très rapidement. Les gens qui ont pris refuge, voilà, qui se sont engagés dans la pratique bouddhiste, y compris refuge, on leur dit, bah voilà, maintenant vous êtes engagés à réciter la prière de refuge 7 fois par jour. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais en fait il y a cette idée qu'on a besoin de rappel. Si on ne se le fait pas, ça va partir en fumée très rapidement. Et quand on fait cette aspiration à libérer tous les êtres, il faut que ce soit concret, parce que de qui on parle ? Tous les êtres, c'est très vague. Ça ne va pas avoir d'impact, donc à la limite, il faudrait arriver à mettre un visage. C'est-à-dire, quand on récite cette prière d'aspiration à libérer tous les êtres, qui sont tous les êtres aujourd'hui dans notre sphère dans notre entourage, dans notre sphère expérimentale, relationnelle, etc. C'est qui tous les êtres ? Voilà, c'est nos proches, notre famille, les collègues de boulot, etc. Et arriver à ce que ces visages apparaissent, et on est en face d'eux, quoi. Est-ce que ça résonne ? Est-ce qu'on est vraiment en train de les regarder en face quand on dit « j'aspire à libérer tous les êtres de la souffrance » ? Parce que là, du coup, ça aura un impact concret. Voilà. Si c'est vis-à-vis des gens qu'on est susceptible de rencontrer dans la journée. Voilà, développer quelque chose de concret. Tangible que tous les êtres, ça reste très vague. Et ensuite, il faut que ça relève de la nécessité. On lui dit, si on veut avoir une aspiration béton, il faut que ce soit nécessaire. Si vous voulez grimper l'Everest, si vous voulez grimper 8000 mètres, il faut que ça relève de la nécessité. Si c'est pas nécessaire, éventuellement ça peut paraître courageux, voire stupide, absurde, mais on le fera pas, quoi. Quelqu'un qui veut grimper 8000 mètres, c'est pour lui une nécessité, c'est la priorité, c'est important. Et donc, du coup, il se donne les moyens. L'aspiration à libérer tous les êtres, si c'est pas nécessaire pour nous, il n'y a pas de raison que ça reste dans l'esprit. C'est un facteur mental, donc c'est soumis à l'impermanence. S'il n'est pas nourri par une nécessité, il va disparaître. Et c'est pour ça que, pour développer l'aspiration, on nous dit de méditer sur l'impermanence. Allez. Les 4 sauts de l'impermanence. Tout ce qui est composé finit par se décomposer. Tout ce qui est acquis finit par se perdre. Tout ce qui est construit finit par être détruit. Et enfin, tout ce qui est uni finit par être séparé. Voilà, c'est 4 sauts de l'impermanence. Mais après, à nous d'en faire quelque chose de plus concret. C'est une invitation en fait à prendre conscience que la vie est courte, très brève, très précieuse, et qu'on est incapable de savoir quand est-ce que la mort arrivera. Ça va nous permettre, l'idée c'est pas de nous rendre sombres, lourds. L'idée c'est de voir quelles sont nos priorités au regard de ce caractère très fugace de l'existence. C'est quoi nos priorités? Qu'est-ce qui va demeurer? Qu'est-ce qu'on va emmener avec nous? Il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir emmener avec nous au moment de la mort. Donc qu'est-ce qui a vraiment de la valeur aujourd'hui? Et on dit plus on médite sur l'impermanence, plus ce qu'on va révéler, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta. La bodhicitta, c'est cette nature, voilà, c'est notre esprit, hein. C'est la nature de notre esprit, la bodhicitta. Alors, on dit la bodhicitta n'est pas soumis aux quatre sceaux de l'impermanence, parce que l'esprit n'est pas quelque chose. Ça, c'est le caractère justement ultime, la bodhicitta ultime. L'esprit n'est pas quelque chose. N'étant pas quelque chose, il n'est pas soumis aux quatre sceaux de l'impermanence. Il n'est pas soumis à la naissance, à la mort. On dit c'est la partie amortelle. C'est même pas immortel, parce qu'immortel, c'est encore dans les concepts de c'est au-delà des concepts de naissance et de mort. Ça n'est pas quelque chose. À part ça, la bodhicitta ultime. Et pourtant, n'étant pas quelque chose, elle est constamment à l'œuvre. Et ça, par contre, on peut le percevoir. La bodhicitta, ce que nous sommes, notre nature fondamentale, tout en n'étant pas quelque chose, se manifeste constamment, et constamment à l'œuvre, et ce qu'on appelle la compassion. C'est la nature profonde, la plus profonde de notre esprit. Nous sommes de cette pâte, quoi. C'est ce que nous sommes le plus profondément. Et cet aspect-là de l'esprit, ce qu'on appelle la bodhicitta relative. Alors, du point de vue bouddhiste, on ne dit même pas que l'homme est naturellement bon, on va beaucoup plus loin que ça. On dit c'est même pas l'homme, c'est tous les êtres ont cette nature de Bouddha. Et c'est pas il est seulement bon, il est Bouddha par nature. C'est-à-dire totalement éveillé. Et pour des. Voilà, pour. La bodhicitta, c'est pas quelque chose qu'on va développer du coup. On est ça. Mais c'est quelque chose qu'on va apprendre à révéler. Et pour le révéler, d'abord, il faut le déceler. C'est-à-dire arriver, donc pas déjà par la méditation, c'est-à-dire la méditation, l'observation de l'esprit constamment, de voir qu'elle se manifeste tout le temps en nous. Par le fait qu'on ne peut pas s'empêcher d'être touché. On ne peut pas s'empêcher d'être touché par la souffrance des autres. D'avoir envie d'être en lien, d'avoir envie de venir en aide. On apprécie d'être sollicité. On apprécie, quelqu'un qui nous demande de l'aide, quelque part on apprécie. Alors après, bien sûr, on a tendance à étouffer. C'est bien ça le problème en fait. C'est que cette bodhicitta ne peut pas s'épanouir tant qu'on l'étouffe. Et par confusion, dans le samsara, malentendu, on a tendance à étouffer la bodhicitta en croyant que ça nous protège. On étouffe cette sensibilité, parce que justement la bodhicitta, c'est notre nature la plus sensible, la plus vulnérable. Et du point de vue bouddhiste, au contraire, on va lui laisser de la place, parce que c'est là qu'on va trouver toutes les capacités pour aider les êtres. Mais c'est pas facile, parce que justement, on va avoir tendance à l'étouffer. Voilà, je suis un mec, les mecs ça pleure pas, voilà, on étouffe la bodhicitta. On étouffe la sensibilité. Et puis ça peut même donner lieu à des trucs complètement tordus, toutes les névroses. Même le sadisme, par exemple. Des gens qui vont jusqu'au sadisme, c'est-à-dire qui espèrent trouver le bonheur dans le fait de voir souffrir l'autre. Alors là, on étouffe carrément la bodhicitta, et puis ça devient complètement tordu. Mais en nature, même un sadique a la nature de Bouddha. Il a cette bodhicitta. Après, c'est son rapport avec la bodhicitta qui est complètement tordu. Voilà, et donc déceler la bodhicitta en nous, c'est voir que ces élans-là se manifestent constamment. On est constamment touché. Et ensuite arriver à le percevoir chez les autres. Percevoir que cette bodhicitta est constamment à l'œuvre autour de nous, à travers des petites choses. Alors l'idée c'est pas de mener une enquête, l'idée c'est juste d'être réceptif. Et c'est pas non plus de voir le monde, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas ça le. C'est juste d'avoir un regard juste sur les choses. Pas d'être plus optimiste ou pessimiste, etc. C'est juste de voir que la bodhicitta, si on y regarde très clairement, on peut le percevoir très facilement. et notamment en Occident. En Occident, malgré tout ce qu'on dit, que bah effectivement il y a de l'agressivité, il y a du stress, etc., il y a aussi une bodhicitta qui est très très présente, et qui est même unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a un respect pour les gens, enfin, même en prenant le métro, les gens ils disent, voilà, quand on est en province, ouais, Paris, et tout ça, pas sympa, et toute la tronche, mais c'est pas vrai du tout. Enfin, moi j'ai vécu à Paris, et au contraire, je vois cette bodhicitta, au contraire, il y a une espèce de tolérance du fait d'être obligé de vivre très nombreux au même endroit, tous ensemble, etc. On a aussi des manifestations de tolérance qui frappent. Ouais, j'ai pris le bus tout à l'heure. C'est amusant de voir en fait à quel point les gens cherchent quand même le contact. Il y a une maman qui monte avec sa poussette. Et ben voilà, ça fait un prétexte. Alors on va voir le petit bébé, puis les gens se sourient, les femmes se rassemblent. Nanana, ah il est mignon. Mais en fait c'est un prétexte. Hein, on cherche ça. Une nana qui baladait son chien tout mignon. Et ben c'est pareil, on va aller voir le chien et tout ça. Mais c'est pareil, c'est un prétexte. On a envie d'échanger. On a envie de dire ah ouais, moi aussi j'ai un chien. C'est le meilleur ami de l'homme. Enfin, voilà, on s'échange des banalités, mais c'est des trucs tout bêtes. Mais il y a des choses comme ça. Un sourire, un bonjour, ça nous fait la journée. Parce que, bah ouais, on est très sensible à ça. Et en Occident, il y a quand même énormément de place pour ça. Enfin, il faut vraiment replacer. Pour nous, ça paraît complètement banal, mais ça ne l'est pas. Il y a des pays dans lesquels ça frappe. Rajesh, quand il vient en Occident, l'ami de Lama, ça le frappe, le respect des gens. Nous, on trouve que, voilà, on ne focalise que sur ce qui va pas. Les gens qui tirent, oui, c'est vrai. Il n'y a pas lieu de se dire, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais par contre, voir que dans les petites choses, cette bodhicitta est constamment à l'œuvre. Tout le temps. Et l'idée, c'est d'orienter aussi notre regard là-dessus. D'avoir une vision, voilà, globale. On cherche ça. On demande que ça, en fait. Et en plus, ça va devenir un antidote au cynisme. Voilà, c'est vraiment le cynisme, c'est vraiment le on brise les vœux de Bodhisattva. Le cynisme, la misanthropie, le fait de dire non, je crois plus en l'humanité, je crois plus en l'homme, j'y crois plus, etc. Là, on brise les vœux de Bodhisattva. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la bodhicitta chez l'autre, et donc du coup, on ne la voit pas chez nous. À ce moment-là, on n'est plus en chemin là. Et c'est une faute. Pour ceux qui ont pris les vœux de Bodhisattva, voilà, où il y a vraiment une cérémonie, un engagement. Il y a plus de place pour le cynisme. Et le fait de voir la bodhicitta, bah, du coup, ça nous empêche de tomber là-dedans. D'être condescendant, des choses comme ça. Et de voir que c'est ça, en fait, qui va donner le plus en plus de sens. Qu'est-ce qui est prioritaire au regard de l'impermanence? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Bah, c'est cette bodhicitta. C'est ça qui... ça, quelque part, c'est du gagner. On l'emporte avec nous. Tout l'amour qu'on a pu recevoir de nos parents, de nos proches, etc., c'est donné. C'est donné, on ne peut pas nous l'enlever. Donc voilà, cette idée de nécessité, l'aspiration qui devient une nécessité. Il n'y a rien de plus important. Tout ce qu'on peut acquérir du monde, recevoir du monde, c'est bien. Mais c'est soumis à la permanence. Donc, et ensuite, donc voilà, on dit que les bénéfices de l'aspiration, c'est d'abord que c'est l'autoroute vers l'éveil, c'est-à-dire ça nous permet d'atteindre très rapidement l'éveil, l'aspiration.
Très rapidement.
Comment ?
Très rapidement.
Très rapidement, ouais. Aspiration béton égale, voilà, autoroute. J'aime bien les phrases choc. que ça va permettre de faire décroître l'attachement au monde. Alors l'attachement au monde, l'attachement au sens mondain, ça veut pas dire qu'on coupe avec le monde, ça veut dire... qu'on arrête d'envisager le monde comme un refuge ultime. Voilà. On fait la part des choses. Le seul refuge ultime, c'est l'éveil. Après, tout ce qu'on peut recevoir du monde, ok, pas de problème. N'essaie pas de se couper du monde, mais d'arrêter de concevoir le monde comme un refuge. Comme un refuge ultime. Et c'est ça qui va diminuer avec l'aspiration. D'ailleurs, on va bien discerner. La diminution de la paresse, ça on va le voir avec la diligence, la paresse. Et enfin, donc, c'est ce qui va permettre, c'est le facteur mental qui permet la naissance de la diligence. Et avec la naissance de la diligence, c'est l'ouverture du tout possible. Toutes les possibilités. Tout est possible avec la diligence. Donc, ça c'est les bénéfices de l'aspiration. Et naturellement va naître donc ce qu'on appelle la diligence. Et la diligence, c'est une paramita qui est fondamentale sur le chemin. Parce que c'est la diligence qui va nous permettre d'obtenir toutes les qualités d'un Bouddha. Voilà, c'est ça l'aboutissement de la persévérance. Et aussi d'obtenir tout ce qu'on veut au niveau mondain. Non, ça paraît rigolo, mais voilà, du point de vue bouddhiste, le mondain, on ne crache pas dessus. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Mais du point de vue du bodhisattva, avoir des très bonnes conditions, un grand pouvoir voilà, financier, de l'argent, des moyens, etc., en fait, ça peut être un moyen très puissant d'aller vers l'éveil et d'emmener les autres avec nous. Il y a des rois qui se sont éveillés et qui ont eu un rayonnement formidable justement parce qu'ils avaient ces moyens. Ces moyens mondains, ces conditions voilà, très aisées, etc. Voilà, du point de vue bouddhiste, on ne crache pas dessus. Voilà, quand on dit renoncer au monde, c'est pas renoncer à avoir une belle voiture, avoir de l'argent, etc. Pourquoi pas, ça dépend ce qu'on en fait. Et ça dépend notre rapport avec ça. Ce dont on travaille, c'est l'attachement à ça. Mais après, voilà, on peut l'utiliser dans un moyen très très bénéfique. Et il y a des Rinpoché, voilà, qui savent très bien l'utiliser comme un moyen puissant d'avoir un rayonnement autour d'eux. Donc voilà, ça c'est les aboutissements de la diligence, toutes les qualités d'un Bouddha, et en plus, on obtient tout ce qu'on veut du point de vue mondain. Et pour développer la diligence, il faut absolument donc combattre la paresse. Voilà, les termes qu'on utilise dans la diligence, c'est vraiment combattre. Vous verrez, il y a plein de termes guerriers comme ça. On est en croisade quelque part, mais en croisade contre nos facteurs perturbateurs, contre tous les obstacles qui vont nous empêcher de réaliser l'éveil. Et notamment, l'obstacle, c'est la paresse. Paresse et diligence, c'est deux opposés. On dit comme la lumière et l'obscurité. La paresse, alors le bouddhiste distingue trois formes de paresse. La paresse, donc la première, c'est. Donc en tibétain, c'est traduit par l'élo, et Rinpoche, Rinpoche dit l'élo dénote un goût prononcé pour l'oisiveté, les petits conforts quotidiens, les amusements et la distraction. Voilà, l'élo, donc ce type de paresseux, c'est décrit comme quelqu'un qui est trop indulgent avec lui-même, et donc du coup qui prend plaisir à tout ce qui est négatif ou neutre, et s'arrange toujours pour reporter à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. C'est ça l'élo, c'est on a le temps. Et on est trop, voilà, trop indulgent avec sa pratique. Donc ça, je crois qu'on connaît tous. Enfin, Et on appelle ça la paresse à l'oriental, parce que vous verrez, la paresse à l'occidental, c'est décrit autrement, c'est assez rigolo. Mais même le terme tibétain, l'élo, très, très léger, quoi, l'élo. Voilà, et on dit pour déraciner ce genre de paresse, il faut méditer sur l'impermanence, toujours. L'idée que cette vie est brève, et que du point de vue bouddhiste, en fait, la mort est imminente. Il y a vraiment cette idée-là, la mort est imminente. Étant donné qu'on n'en connaît pas la date, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, en fait, elle est imminente tout le temps. Et on ne peut pas faire de statistiques par rapport à ça. Aucune probabilité, ça ne marche pas. On ne sait pas qui d'entre nous mourra le premier. Incapable de prévoir. Donc, du point de vue bouddhiste, c'est une invitation à la voir comme imminente et envisager chaque journée comme si c'était la dernière. Et au regard de ça, voir du coup, qu'est-ce qu'on fait et est-ce que Au regard de l'impermanence, c'est toujours aussi prioritaire. Si on avait conscience qu'on mourrait demain, est-ce que ce qu'on a fait aujourd'hui nous semble vraiment ce qu'il y a de prioritaire? Est-ce qu'on prendrait autant d'intérêt, alors on dit dans les textes, à nos repas, autant de, voilà, à ce qu'on va manger ce soir, ou autant de plaisir à dormir? Si on sait qu'on va mourir peut-être dans un jour, un ou deux jours, ça sera peut-être plus la priorité. L'idée c'est ça, hein, c'est pas évidemment de plus savoir apprécier un bon repas, ou plus savoir apprécier voilà, le sommeil, etc. Mais c'est l'idée de qu'est-ce qui est prioritaire. Certainement que quand on le saura, ça va changer, donc autant s'y habituer maintenant, et voir comme voilà, la mort comme imminente à chaque instant. Ça va être un antidote donc à cette forme de paresse, l'oisiveté, l'élo. Ensuite, la deuxième forme de paresse, donc on dit la paresse à l'occidentale. Donc nous, on ne le considère pas du tout comme une forme de paresse. C'est le terme paresse, au sens conventionnel occidental, c'est le truc. Mais sens bouddhiste, c'est le fait de remplir notre journée d'activité, n'ayant aucun sens, en essayant de se convaincre que c'est pour la bonne cause. Mais l'idée, c'est, voilà, ils appellent ça la paresse occidentale, c'est qu'on est sans arrêt en train de courir après quelque chose. Et donc, on remplit, voilà, notre journée d'activité au point qu'il nous reste plus du tout d'énergie, plus du tout de temps. Voilà, la Lama Tsultrim, il dit souvent, le mantra qu'on récite le plus souvent en Occident, c'est « j'ai pas le temps ». C'est ça. Et donc, on est capable, voilà, dans ces activités, de déployer une énergie, on est infatigable. On est infatigable. Mais par contre, dès qu'il s'agit de s'asseoir sur son coussin, il y a des personnes pour qui c'est une montagne, quoi. Un quart d'heure sur un coussin, non, je peux plus, je suis crevé. Voilà, il y a cette idée-là, pareil. Hein. Alors nous, on l'entend pas comme paresse, ça s'applique pas à notre terme paresse, mais voilà, du point de vue bouddhiste, c'est considéré comme une paresse, c'est-à-dire on comble un vide, et donc on remplit, puis voilà, on essaye de se montrer très diligent là-dedans, mais c'est une fausse diligence, c'est pas les bonnes priorités, parfois. Et enfin, donc la troisième forme de paresse, qui consiste à se dénigrer soi-même. Au vu de voilà, l'ampleur de cette aspiration, on pense qu'on n'en est pas capable. On décrète qu'on n'en est pas capable, qu'on n'est pas assez... Alors, manque de courage. Et ça, c'est considéré comme une forme de paresse. Et on nous invite à combattre ce genre de choses. C'est qu'on a tous la nature de Bouddha, donc il n'y a pas de raison. Tous les bodhisattvas, tous les bouddhas, ils sont partis de là où on est parti. Et même nous, aujourd'hui, on a la précieuse existence humaine. Donc... on vient de loin quelque part. C'est déjà une condition qui dénote d'un sacré chemin du point de vue bouddhiste. Ça veut dire qu'il y a énormément de travail qui a été fait. Un travail colossal pour en arriver à ces conditions-là. Donc, si on en est là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller plus loin. Voilà, donc, on dit qu'il faut combattre la paresse. On nous dit dès qu'elle apparaît dans l'esprit et avec promptitude. On dit il faut réagir aussi rapidement qu'on réagirait si un serpent venait à tomber sur nos genoux. Ou si nos cheveux prenaient feu. C'est ça, voilà, les images qu'on utilise, c'est tout de suite. Tout de suite intervenir. Et ensuite... la diligence va s'appliquer à... Pareil, les trois types de paresse, trois types de diligence. La diligence, d'abord, le premier type de diligence qu'on doit développer, c'est la diligence semblable à une armure. Donc là encore, il y a vocabulaire guerrier. C'est, il faut que la diligence devienne semblable à une armure. Ça veut dire être prêt, et ça c'est très important, à envisager toutes les difficultés qu'on va rencontrer. Il ne faut pas s'attendre à ce que le chemin spirituel soit toujours tout rose, parce qu'à la moindre difficulté on va se décourager. Quelque part, le bodhisattva devrait aspirer au meilleur, mais en envisageant le pire à chaque fois, parce que si on envisage le pire, quand la difficulté arrive, elle nous apparaît pas si difficile que ça, parce qu'on a envisagé, voilà, que forcément sur ce chemin là Voilà, notre ambition, elle est grande, c'est devenir Bouddha, donc tout va pas répondre à nos attentes. Et ça, c'est très important de le développer, mais même à chaque début de journée. Envisager que peut-être aujourd'hui, ça va être la tempête. Mais vraiment, ça va nous tomber dessus. Envisager que c'est possible. Parfois, hein, on a ce sentiment, mais que tout nous arrive, quoi. Voilà, c'est pas le jour, quoi. Mais si le matin, faites l'expérience, si le matin vous vous êtes dit qu'effectivement, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je continuerai dans ma pratique, rien ne m'arrêtera à travailler sur mes facteurs perturbateurs, à toujours porter mon attention aux autres, à toujours voilà, faire en sorte d'être répondre à la bodhicitta, etc. Si on se le dit le matin, on pourrait constater que ça aura un impact au moment où la difficulté arrive. Ça va faire écho. Et ça nous permettra de ne pas abandonner, et au contraire de l'associer à la pratique. Voilà. On sera, voilà, au lieu de se dire, être emporté, etc., comprendra qu'il y a un rapport avec la pratique. C'est ça qui est enseigné dans le Dharma. Dans le Dharma, il n'est pas enseigné que ça va être tout le temps tout rose. Il est enseigné que dans cette aspiration, évidemment, il va y avoir des difficultés. Et si on est préparé, voilà, on dit un homme averti en vaut deux, c'est exactement ça. Là, du coup, on a l'armure de la diligence. Ça va nous protéger de façon à continuer à avancer. Oui, c'est normal. On va tout simplement le considérer comme normal et pas comme quelque chose de, voilà, ça me tombe dessus, moi. Pourquoi moi, etc. Et là, du coup, c'est autre chose que la pratique sur le coussin. La pratique, elle est là, quoi. Quand on arrive à se dire, ouais, c'est difficile, mais non, j'ai mon objectif et mon aspiration, c'est de me libérer. Donc, c'est maintenant, quoi. La pratique, c'est maintenant. Donc, ça, c'est le premier type de persévérance. Voilà. Persévérance semblable à une armure. Ensuite, la persévérance dans l'activité. La persévérance dans l'activité, ça va être. D'abord, avant d'envisager d'aider les autres, il faut d'abord pouvoir être à même de se libérer des facteurs perturbateurs. Donc la persévérance vis-à-vis des facteurs perturbateurs, c'est tant qu'ils sont là et tant qu'ils ne sont pas tous déracinés jusqu'au dernier, je continue mon chemin. Je m'arrête jamais. Donc on nous dit les qualités qu'il faut développer, c'est stabilité et constance. Voilà, c'est cette idée que tant qu'il en reste un, et aussi subtil soit-il, je continuerai mon chemin, et puis voilà, on parle de travailler avec acharnement, combattre avec acharnement. L'idée d'acharnement, c'est pas qu'on lutte contre soi-même, c'est l'idée d'être obstiné, que voilà, les facteurs perturbateurs, on en combat un, mais ça revient, c'est toujours le même, encore, et ben on continue, on s'arrête pas. Voilà. On ne se laisse pas décourager, on endure nos découragements. On dit, voilà, stabilité, constance, pas d'orgueil. Pas d'orgueil dans le sens où, étant donné qu'on pratique en fait pour soi, finalement les premiers bénéficiaires de notre pratique c'est nous, donc il n'y a pas de raison d'en tirer de l'orgueil, on fait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se décréter, voilà, je suis un pratiquant. Non, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Inébranlable, voilà, toujours cette idée-là. Dévotion. Dévotion, c'est un terme qui signifie ouverture. Avoir suffisamment d'ouverture pour que ce qui nous arrive dans la vie, on soit capable de le prendre comme un enseignement. Ça, c'est une énorme qualité, la dévotion. On dit souvent, alors voilà, chez les Tibétains, il y a cette notion de lama racine, voir le lama racine dans tout ce qui nous arrive, le maître. Mais ce n'est pas le bonhomme à ce moment-là. C'est notre lama racine intérieure. C'est cette ouverture qui nous permet de tirer une leçon de tout ce qui arrive, au lieu de le voir comme voilà, truc, non, une invitation à aller plus loin, une invitation à pratiquer. C'est ça la dévotion. C'est tout est bon pour l'éveil, tout est bon pour pratiquer. Tout peut être intégré, ça la dévotion. Voilà, et ensuite, une fois que voilà, on est clair avec cette persévérance vis-à-vis de nos facteurs perturbateurs, après, ne jamais manquer une occasion d'être utile aux êtres selon ce que nous on semble voilà pertinent, juste. Voilà, toujours attentif aux besoins des autres. Et enfin, le troisième type, je suis désolé, hein, je suis pénible, c'est ça les enseignements bouddhistes, c'est très structuré quoi, c'est les trois types de paresse, ensuite les trois types, et puis ensuite des sous-catégories. Voilà, mais il y a une espèce de logique. D'abord, une base, aspiration. Voilà, c'est la cause. Toujours, hein, karma, hein, cause-conséquence. Aspiration, c'est la base pour faire naître persévérance. Et ensuite, persévérance, tac, 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 tac. C'est hyper structuré. Mais après, à nous de le rendre plus, voilà, plus expérimental, plus moins scolaire, quoi. Et enfin, donc, le troisième type de persévérance, on dit, c'est la persévérance insatiable. Insatiable dans le sens où, alors là, on va parler des expériences agréables. C'est-à-dire sur le chemin, plus on va aller en chemin, plus il peut apparaître des expériences voilà, qui vont être des signes de progrès, comme des états de béatitude. On va parler aussi de samadhi, absorption méditative, éventuellement voir des terres pures, c'est-à-dire un état d'esprit purifié bah, projette du coup des perceptions pures. Et donc du coup, on peut être arrivé à voir ce qu'on appelle des terres pures, des êtres célestes aussi, on parle de ça. Mais quelles que soient les manifestations, surtout le piège, c'est de s'arrêter là. Du coup, voilà, s'endormir sur nos lauriers, se dire, bah voilà, j'ai assez progressé, etc. La persévérance insatiable, c'est insatiable dans le but de, tant qu'on n'a pas la finalité, on ne s'arrête pas. On s'arrête, c'est juste des expériences. Peu importe les effets secondaires, aussi agréables soient-ils, c'est des effets secondaires. Nous, ce qu'on vit, c'est l'état de Bouddha, donc on ne s'arrête pas là. Voilà. Bien sûr, donc ça c'est la persévérance et ce qui va apparaître de manière conjointe, c'est la paramita de la persévérance. Alors la paramita, c'est donc toujours, comme toutes les autres paramitas, il y a cette notion de non-effort qui apparaît. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui saute. Au départ, on pratiquait la paramita comme un moyen pour arriver à un objectif. Le moyen, c'est la paramita pour arriver à l'objectif de l'éveil. Et au bout d'un moment, même ça, ça saute. C'est-à-dire qu'on parle le chemin devient le fruit. Le chemin devient le but. Il y a cette notion-là. Persévérance, ça veut dire enthousiasme pour le bien. Et au bout d'un moment, à force de développer ça, en fait, on se rend compte qu'en chemin, on est comblé dans nos aspirations. C'est-à-dire, on devient enthousiaste à pratiquer le chemin. Et quelque part, complètement comblé. On a réglé notre problème, en cours de route, sans le savoir, quoi. Le chemin devient le fruit. Ce qui fait qu'on dit qu'à ce moment-là, l'éveil devient inévitable. Enfin, on va c'est de manière irréversible vers l'éveil, parce que bah, forcément, du coup, il n'y a rien qui ait plus de sens que nous, que de pratiquer la diligence et l'enthousiasme pour le bien. Donc du coup, bah, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Mais à la limite, on s'en fiche de l'éveil. Cette notion d'éveil, on s'en fiche, puisque c'est ça qui est le plus qui a le plus de sens pour nous, qui nous nourrit. Il n'y a plus besoin de rien d'autre. Le reste a disparu, en fait. On n'est même plus en train de se... Voilà. Le fait de se préoccuper de soi, bah... disparaît puisque on est déjà comblé dans nos aspirations. C'est là qu'on parle de paramita parce qu'il n'y a plus d'effort à faire quand on en est là. Bah, toutes les qualités se développent à leur rythme, mais il n'y a même plus besoin de se retourner. On regarde plus en arrière, on continue d'avancer vers l'éveil. Et là, on parle de persévérance semblable à un fleuve. Là, c'est l'idée de continuité. C'est plus ponctuel. Donc du coup éphémère, c'est tout le temps. Elle s'arrête plus. Ça va, c'est vendeur? Mais voilà, il y a vraiment cette idée de combatif, compétitif, mais pas compétitif dans le sens où on est compétitif avec soi-même. C'est pas où on se dit, bah voilà, quelqu'un qui est en compétition sport, bah, il évalue le niveau des autres. Et puis voilà, il essaye juste d'aller au-dessus. Mais là, on est compétitif avec soi-même. Donc du coup, il n'y a pas de limite. C'est, quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer, il n'y a rien qui fera obstacle à ma pratique. Tout est bon pour l'éveil. Alors il y a des questions qui ont mûri
L'éveil, on ne l'atteint jamais. Parce que si on atteint l'éveil, on atteint le but, il n'y a plus rien à faire.
C'est peut-être un canular, ouais. Mais c'est rigolo, c'est comme ça que décrit Shogyam Trungpa, il parle d'un canular dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on va nous vendre l'éveil. On va dire oui, il y aura un moment, mais au bout d'un moment, cette notion même va disparaître. C'est un concept, c'est encore un concept, une fabrication de l'esprit. Par contre, il y a manifestation d'éveil, mais il n'y a peut-être plus personne en fait pour... voilà, il n'y a peut-être plus personne. C'est l'éveil. Mais c'est plus un être éveillé, quelqu'un d'éveillé. On manifeste l'éveil.
Où se situe l'équilibre entre aspiration et attachement ? Parce que parfois, en fait, dans ma pratique, je me suis rendu compte que l'aspiration pouvait devenir un peu malsaine, ou en fait, je commençais à essayer d'en faire trop, et du coup, pas bien. Et en fait, c'était pas. Au bout d'un moment, je me rendais compte que j'étais pas en train vraiment de pratiquer, j'étais en train de faire autre chose.
Donc l'aspiration, ça vient du désir. Hein. En fait, être et désir, finalement, c'est un pléonasme. On peut pas dissocier les deux. En tant qu'être humain, ça fait partie de nous. Donc après, on nous dit c'est ni bien ni mal, après ça dépend ce qu'on en fait. Et effectivement, dans le désir, ça peut déboucher sur ce qu'on appelle l'attachement, un poison de l'esprit, l'attachement, et même l'attachement à l'éveil. Au bout d'un moment, il faudra qu'on le laisse tomber, il faudra qu'on s'en libère, parce que ça va devenir un poison, ça va devenir une idée fixe, et ça va... Là aussi, mais... on nous dit, à la limite, c'est vraiment le dernier qu'il faut lâcher parce que cet attachement-là, en fait, c'est. Voilà. S'il est bien canalisé, c'est ce qui nourrit notre aspiration. Et on a besoin de cette aspiration. Voilà, c'est un karma. Hein. Donc, pas d'aspiration, pas d'éveil. Il faut une aspiration. Il faut savoir utiliser le désir à bon escient. Après, voir. Ne pas s'attacher à cette idée d'éveil parce que. L'éveil, tant qu'on ne l'a pas réalisé, reste une idée. Et si on s'attache à une idée, bah, du coup, on la sclérose. Et si on la sclérose, bah, c'est une confusion, c'est un concept. On va droit dans le mur. L'éveil n'est pas de cet ordre-là. Il est au-delà des concepts. Et s'attacher à un concept, bah, ça peut...
Comme souvent, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de paradoxe entre dire qu'il faut aspirer... à l'éveil, mais après il faut aussi se rendre compte qu'on n'a rien à changer, parce que si on veut changer quelque chose, il y a de l'attachement.
Ouais.
Et ça,
ouais. C'est dur. Et on va être amené à faire face à ce paradoxe, quoi.
Ouais.
Et l'utiliser. Enfin, oui, après, c'est bien de rester justement avec cette question-là. On ne va pas chercher à résoudre. On a cette question-là. Et quelque part, c'est tout à notre honneur. Enfin, ça va nous servir, cette interrogation. Voilà, on va être en but. Ah bah ouais, paradoxe. Pourquoi aspiration, mais en même temps j'aspire à non-intention, etc. Mais garde cette question parce que ça peut être porteur. Faut pas, on va pas chercher à tout résoudre, au contraire. Voilà, là il y a quelque chose d'intéressant, quoi. La Macherab, lama qui a fait la retraite avec la Masultrim, il dit ça souvent. Ce genre de paradoxe qu'on a, il nous honore en fait. Parfois il y a des questionnements et qu'on va garder très longtemps sur le chemin, mais en fait qui vont nous nourrir. Il y a pas lieu. Alors évidemment, quand on a des doutes, il faut savoir les dissiper, mais il y a des questionnements qui sont très profonds et c'est la pratique. En fait, qui va nous aider à voir quelque chose. Ça va pour ce soir ? On s'arrête là ? Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Thank you. Merci.
Merci. Merci.